Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix qui sont arrivées en studio jusqu'à 19h ce soir. Charles Villeneuve et Gérard Carrérou répondent aussi à vos questions, à vos interrogations 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Bonsoir Charles, bonsoir Gérard,
bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue dans ce studio à tous les deux, on est ensemble jusqu'à 19h avec deux thèmes que l'on va développer ce soir précisément. Didier Raoult qui fait encore des siennes. Évidemment, Didier Raoult, c'est la dernière fois, c'est l'étude de Lancet qui en a pris pour son compte. Elle est faite par des pieds nickelés, hein, a dit le professeur. Et son bras droit, Philippe Parola, qui travaille dans cette équipe, était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Il a également réagi à cette étude. Écoutons.
Cette étude est une farce. On appelle ça la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'elle survient à la suite d'autres publications qui étaient totalement douteuses et totalement à charge contre le traitement par hydroxychloroquine. Il n'y a aucune donnée sur les hôpitaux, les médecins, le recueil de données. On ne sait pas comment les dossiers ont été sélectionnés. Il n'y a aucune information, des statistiques fantaisistes. Il y a des choses impossibles. On compare des groupes qui ne sont pas comparables. C'est énorme.
Alors Gérard Carrérou, on va démarrer ensemble, des pieds nickelés pour Didier Raoult, voilà ce qu'en dit aussi son bras droit. Bon, l'étude, ça y est, le cercueil est fermé si j'ose dire. Il se défend tout le temps, Didier Raoult.
Alors,
Il attaque.
Mais moi je voudrais d'abord dire une chose, simplement je ne suis pas docteur hein, et je ne le suis pas devenu pendant le confinement, même si ça a duré assez longtemps. Donc je ne prétends pas ce soir faire l'arbitrage entre est-ce que c'est un truc sérieux, l'hydroxychloroquine, un traitement qu'il fallait traiter dès le début, etc. Ou est-ce qu'il ne fallait pas, comme l'ont dit un certain nombre de professeurs éminents sur tous les plateaux de télévision et de radio. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est celui de quelqu'un qui a écouté attentivement tout ce qui s'est dit sur le sujet depuis 3 mois et qui trouve quand même qu'il y a quelque chose. C'est le mystère de la chambre jaune. Pourquoi c'est le mystère de la chambre jaune? Parce que je vais poser juste 2-3 questions, on pourrait en poser 50. Mais par exemple, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on a empêché un traitement pour les médecins de ville, qu'un certain nombre de médecins de ville voulaient utiliser, au nom de simplement, quand j'ai un patient qui souffre, il faut que je puisse le traiter. On a tout de suite décrété que ça ne pourrait pas être les médecins de ville, qu'il fallait que ça passe à l'hôpital et pour les cas graves. Exactement le contraire de ce que demandait Raoult, qui disait il faut que ça soit utilisé tout de suite avant d'aller à l'hôpital, le cas échéant. Donc, premier mystère. Deuxième mystère, pourquoi est-ce qu'on permet à l'hôpital seulement en cas grave? Ça, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi on s'est précipité, excusez l'expression, mais comme la vérole sur le bas clergé, sur le fameux rapport Lancet. Parce que ce rapport Lancet, il était formidable pour ceux qui voulaient effectivement critiquer Raoult et qui ne s'en privaient pas depuis le début, à juste titre. Peut-être. Ils se sont lancés là-dessus en disant « Regardez ce rapport, 100 pays, 96 000 patients, etc. » Ils démontrent que c'est... Bon.
Partie quand même de la communauté scientifique qui a remise en cause, hein, d'ailleurs. Du 22 mai.
Je vais m'arrêter là, mais j'ai d'autres questions encore. Ouais. J'ai beaucoup d'autres questions. Donc je dis, heureusement, la maladie semble reculer. La cloche de Raoult, d'ailleurs, a fonctionné. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à essayer de trouver la vérité vraie. La vérité sur cette affaire, et je pense que les commissions d'enquête parlementaires qui vont voir le jour, qui vont commencer à travailler, auront à se pencher là-dessus. Parce qu'il faut savoir si on a dit toute la vérité aux gens. Alors, est-ce que c'est un zozo mégalo ou est-ce que c'est un chercheur de génie? J'attends qu'on me le prouve.
On rappelle juste, si vous le voulez bien, Gérard, que c'est au départ, ce médicament, c'est un dérivé de l'antipalvien chloroquine que tout le monde connaît.
Oui, j'en ai pris, moi, pour aller aux colonies. Voilà,
Voilà. Et ensuite, ce qui a été dit, c'est qu'elle augmentait le risque de décès et d'arythmie cardiaque. Voilà, c'était le problème. Mais ensuite, et c'est vrai, Charles Villeneuve, on a vu Emmanuel Macron aux côtés, enfin presque, en tout cas, se rendre à l'IUH de Marseille. Et là encore, une autre question qu'on pourrait rajouter.
Moi, je voudrais, si vous voulez vous rappeler une étude très importante qui fait à peu près 150 pages, qu'on peut lire d'ailleurs, qu'on peut se procurer, du professeur Raoult, édité en 2007. Que dit-il en 2007 à la suite d'une période de s'étendant de 2001 à 2003 où il y a eu la grippe aviaire, H1N1, vous vous souvenez d'ailleurs, qui va provoquer chez Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, dont on oublie toujours qu'elle est docteur en pharmacie. Ouais. Et vous savez, les pharmaciens connaissent les médicaments beaucoup mieux que les médecins, et notamment Roselyne Bachelot aussi. Et il y a eu le SARS. Que le dit-il pour les conclusions? Parce que je ne vais pas vous lire les 150 pages, bien sûr. Il faut à tout prix remettre la France au niveau pour faire face à une pandémie violente. Il faut réorganiser les services de virologie qui ne sont pas au niveau et il faut créer et remplir les réserves de tests et de masques. Mmh. Parce qu'il est très vraisemblable qu'on sera dans les 10-15 ans qui viennent, je cite, sous l'effet d'une pandémie violente. Mmh. En ce qui concerne, si vous voulez, le couple de l'azithromycine et de la chloroquine, mmh. Moi, j'ai été soigné, j'ai eu donc le Covid-19,
ouais, ouais, ouais.
Du 17 mars pendant 3 semaines, fièvre, toux, voile au poumon. Bien. J'ai été soigné essentiellement dans les 2 premiers jours avec la clamoxyle pour la toux et ensuite avec l'azithromycine, prescrit par mon frère, qui est un jeune médecin qui a fait ses études de médecine à Marseille et qui est plutôt un partisan, si vous voulez, de la méthode Raoult. Mais la méthode Raoult ne s'applique qu'au tout début du Covid.
C'est toute la question.
Parce qu'ensuite, ils vous le disent d'ailleurs, ouais. Justement, à Marseille, qu'il y a des risques cardiaques et surtout, il ne faut pas, lorsque la maladie devient extrêmement grave, si vous voulez, appliquer le protocole Raoult. Ouais. Et c'est ça, justement, que le rapport d'ailleurs de Lancet ne porte pas, et surtout ils ont choisi des patients qui avaient des risques cardiaques.
Alors on va y revenir si vous le voulez bien. Ensemble, vous évoquez Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de la Santé, qui elle a défendu, qui s'en est pris, pardonnez-moi, aux responsables politiques qui défendaient le traitement de Raoult. Donc il y a quand même beaucoup de paradoxes. Finalement, il n'y a que ça, des paradoxes dans cette affaire autour de l'hydroxychloroquine. On en reparle avec vous deux dans une petite seconde. Les Grandes Voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les Grandes Voix jusqu'à 19h. Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Oui, on revient sur ce dossier autour de la chloroquine et avec un Didier Raoult qui continue de se défendre bec et ongle contre The Lancet, cette étude scientifique qui le condamne d'une certaine manière. On a un auditeur, mais d'abord un mot de votre part, Gérard Carrérou.
Oui, parmi les questions que je voulais poser aussi, que je n'ai pas posées, c'est on nous a fait miroiter pendant 2 mois un soi-disant rapport Discovery. En nous disant, oh, attendez, il n'y a pas eu d'étude. Alors, on a tout jeté sur le dos de Raoult en disant, il n'a pas fait l'étude comme il fallait, il n'a pas pris les témoins, le rameau témoin, etc. Donc, ça ne vaut rien, son truc. Il faut faire une grande étude Discovery. Mmh. Pendant 2 mois, est-ce que vous en avez entendu parler de l'étude Discovery, des conclusions? Ben non, vous n'entendrez jamais parler parce qu'elle n'a jamais véritablement été au bout de son travail et il n'y aura pas de conclusion. C'est quand même bizarre. Et puis, également, je me dis, mais enfin, on réunit, il y a quelque chose de dramatique, il y a quand même eu 28 000 morts, il faut leur rendre hommage. Et on ne met pas l'un des meilleurs infectiologues français, il n'est pas dans le comité secret du roi, là.
Le comité scientifique.
Oui, scientifique.
Il n'a pas voulu, je crois.
Il s'est retiré. Mais le président de la République qui est allé le voir aurait pu lui dire, monsieur Raoult, j'ai besoin de vous, on a besoin d'hommes comme vous, etc.
Alors, on va prendre une question d'un auditeur. Francis nous appelle de Nancy. Bonsoir Francis, bienvenue, votre question.
Bonsoir à vous tous.
Gérard et
Charles ont tout dit en faveur du professeur Raoult et je les rejoins totalement. On a critiqué le traitement la semaine dernière suite à une étude de The Lancet.
Oui.
The Lancet appartient à une société qui s'appelle Elsevier et qui est détenue, dont l'actionnaire principal est BlackRock. BlackRock qui gère aux États-Unis les intérêts de Gilead, un laboratoire.
Exactement.
Ma question
laboratoire
très simple.
Concurrent.
C'est oui.
Voilà, ma question très simple, n'est-on pas victime, nous, patients, n'ayant pas pu être soignés par le médecin de ville, mais ayant pu être soignés par le traitement de Raoult à l'hôpital, et ça a été appliqué dans une très large majorité des hôpitaux de France, j'ai des témoignages. N'est-on pas victime, nous, patients, d'une guéguerre de laboratoire insupportable?
Bonne question. C'est ça le poids des lobbies, le poids des labos.
La comité,
bien sûr. Merci Francis.
Les comités parlementaires doivent poser.
Oui,
parce que si on arrive. Et il y a aussi un des adjoints, l'adjoint du professeur Raoult, M. Parola, là, qui a parlé
Philippe
sur Europe
Parola,
ce matin. M. Parola dit enfin, et puis on aimerait bien quand même, c'est pas interdit pour les grands professeurs d'avoir des activités auprès de laboratoires.
Oui.
Ils ont le droit de gagner de l'argent. Très bien, mais il faudrait quand même qu'on sache s'il y a des conflits d'intérêts entre ces labos-là. j'en sais rien. Mais je veux dire, le fait qu'on...
C'est-à-dire que Gérard s'est autorisé à partir du moment où tu déclares, si tu veux, cette rémunération.
Oui, mais encore faut-il qu'on le sache.
Bon, mais il est bien évident, de toute façon, il pose la question, notre camarade auditeur, mais Francis. Il répond aussi en même temps, c'est qu'il est bien évident qu'il joue un rôle très important dans cette affaire, d'abord de The Lancet. Il ne faut pas oublier aussi que l'actionnaire principal est un adversaire acharné de celui qui en a été le promoteur aux États-Unis, c'est-à-dire Donald Trump. Là aussi, ça implique justement, si tu veux, des questions. Il y a plein de questions auxquelles les commissions d'enquête parlementaires répondront que partiellement, je pense, parce que ce qui est très intéressant comme question, et j'espère qu'on va la poser lorsqu'Agnès Buzyn sera appelée devant la commission d'enquête parlementaire, c'est que démissionnant et étant candidate à la mairie de Paris, de son poste donc de ministre de la Santé, elle dit dans une interview, rappelons-nous, dans Le Monde, qu'elle avertit le Premier ministre, elle avertit les autorités politiques que c'est une pandémie violente et que le virus est dangereux. Et le Premier ministre, d'ailleurs, mais de manière assez discrète, mais il le reconnaît, près de 24 heures après, il dit « c'est vrai qu'elle m'a averti, or elle n'a pas été écoutée ». Qui plus est, c'est une scientifique, Agnès Buzyn. C'est une hématologue distinguée. Donc on ne l'écoute pas, pourquoi ? Pour des intérêts mesquins politiques ? Pourquoi ?
C'est une réponse qui déclenchera
d'autres réponses par rapport aux questions que tu posais.
Après, la question, c'est que là, on parle franco-français, mais nombre de pays ont déjà stoppé l'hydroxychloroquine.
Il y a une autre question. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas la liste précise de tous les pays du monde, comment et combien ont utilisé
et
les résultats que ça a donné.
Voilà, on nous dit on nous dit aujourd'hui qui a cessé de l'utiliser.
Oui, mais on ne nous dit pas qui continue de l'utiliser.
Allez. Mais rappelons-nous, Nathalie, juste une petite insiste, rappelons-nous que les médecins chinois ont publié au début de la pandémie une étude en disant qu'ils avaient utilisé le protocole.
Alors, on se retrouve dans un instant, Gérard Carreau, Charles Villeneuve, avec un tout autre sujet. Ça y est, depuis 18h, hein, c'est terminé pour les candidatures, pour les listes, pour les municipales du 28 juin, bien sûr. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix Charles Villeneuve et Gérard Carreau, jusqu'à 19h.
Ça y est, depuis 18h précisément, donc il y a 50 minutes de cela, toutes les listes sont déposées en vue du second tour de ces municipales qui auront lieu le 28 juin, avec évidemment d'ultimes tractations ces dernières heures. Zoom sur Paris, l'alliance entre Anne Hidalgo et les Verts, écoutons.
Nous avons su nous rassembler, d'abord parce que nous gouvernons ensemble cette ville depuis, c'est vrai, longtemps, mais en même temps, on a su toujours se renouveler, on a su aller plus loin, aller sur certains sujets, y compris en rupture, sans considérer qu'on n'avait pas le droit d'innover, au contraire, et de penser même différemment le monde qui vient. Donc je crois que cette équipe-là doit pouvoir donner confiance parce qu'elle a su se rassembler.
Anne Hidalgo au micro de Claudia Bertram pour Europe 1. Charles Villeneuve, elle était déjà bien partie, elle avait déjà plus qu'un boulevard, Anne Hidalgo, un accord qui la place encore plus en position favorable.
Écoutez, moi je pense que ces deux derniers jours ont éclairci l'horizon du deuxième tour des municipales le 28 juin prochain. À Paris, l'alliance Hidalgo-Les Verts, de toute façon, garantit la victoire d'Hidalgo, qui était probable de toute façon. Bon, à Bordeaux, l'alliance entre le républicain sortant Florian...
Le dauphin d'Alain Juppé.
Le dauphin d'Alain Juppé, absolument. Et La République En Marche, elle aussi, si vous voulez, apporte une éclaircie pour Florian, qui n'est pas sûr de gagner, compte tenu du score très important... de la candidate vert qui a fait seulement 96 voix de moins que le maire sortant, puisqu'il avait remplacé Juppé, mais qu'il avait été élu par le conseil municipal. Il y a aussi une autre problématique importante avec un maire sortant républicain, mais Macron compatible, c'est Toulouse. Moudin, de toute façon, est talonné lui aussi par une alliance de gauche et avec les Verts, qui est assez importante. Et pour le reste, si vous voulez, les Républicains s'en sortent parfaitement bien. Vous avez regardé en ce qui concerne la Côte d'Azur, où ils ont quasiment tous été réélus au premier tour, sauf le maire de Nice, à 0,2 points près. Et puis, pour le reste aussi, je trouve que ce sera, je pense, confirmé, encore que je laisse le soin à mon l'ami Gérard, de parler d'une implantation importante si le Rassemblement national l'a réussi à Perpignan.
Oui, oui, Perpignan, et puis on va monter aussi dans le Nord, voir du côté de chez Martine Aubry.
Oui, alors, bon, alors si vous voulez, essayons de... Ça, d'abord, ça n'intéresse pas énormément les gens, espérons que ça va les intéresser un peu. Il y aura probablement une grosse abstention à ce deuxième tour.
Entre le désintérêt et puis la crainte, évidemment,
mais enfin,
du virus.
De toute façon, même s'ils sont élus avec peu de voix, les gens qui seront élus, et c'est eux qui auront le pouvoir exécutif dans les mairies, donc c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme substantifique moelle ? C'est que l'idée de La République En Marche, au départ, qui avait brillamment été à Paris avec l'élection du président, puis ensuite de l'Assemblée, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Ils ont complètement raté, si vous voulez, leur implantation aux élections municipales. Ils vont se raccrocher ici ou là à quelques maires avec qui ils ont pu faire des alliances. Bon, mais disons que c'est un échec flagrant.
Peux dire c'est calamiteux.
C'est calamiteux, oui, c'est calamiteux. Bon, alors par contre, c'est la revanche de l'ancien monde. Cet ancien monde qu'on avait chassé, là, où c'est fini, il n'y a plus de socialistes, il n'y a plus de droite républicaine, etc. Et ben, comme par hasard, les socialistes et la droite républicaine s'en sont bien tirés au premier tour, et ils vont bien s'en tirer. Tous les paramètres le montrent, ils vont bien s'en tirer au deuxième tour, assez largement, pour les Républicains comme pour le Parti Socialiste. Alors, ceux qui vont être en relative faible progression, c'est effectivement le Front National, parce qu'à part Perpignan, qui serait formidable, à part avec les villes qu'ils ont déjà, bon, ça arrondirait un petit peu leur... Mais enfin, c'est pas véritablement...
Ils ont quand même conforté, notamment dans le sud, Fréjus,
ils ont conforté 6 des villes qu'ils avaient conquises, et il y en a 3 qui n'ont pas, mais
Mais c'est intéressant quand même, de Jean Jaurès.
Perpignan, c'est Jean-Marc Pujol en face de Louis Alliot. Je lui posais la question la semaine dernière, et ce qui est quand même intéressant, parce que vous parlez du Front National, c'est qu'ils auraient pu profiter de cette crise du Covid-19. Ouais. Marine Le Pen aurait pu en profiter, elle a été plus tribun que tribun, elle a tapé sur le gouvernement, elle n'a pas profité une seule seconde de cette crise.
Vous avez totalement raison.
Et là, dans ces municipales, effectivement, à part Perpignan, dont on savait que Louis Alliot avait été déjà en bonne position, il n'y a pas eu ce coup vraiment qu'elle espérait jouer.
Vous avez totalement raison. Dans une crise majeure, quand même, c'est une crise majeure que nous venons de vivre, qui n'est pas tout à fait finie, mais enfin, majeure pour les Français depuis 3 mois, sans précédent, etc., la force la plus importante de l'opposition, le FN, on pouvait penser que ça allait faire un énorme...
Et ça a été un raté.
Mais ça, moi, j'en tire carrément une conséquence, c'est que pour la présidentielle... Marine Le Pen reste à peu près, à quelques points près,
au même
à l'étiage de son échec de la dernière.
Et ça, c'est quand même un enseignement, Charles.
En revanche, Gérard, ce qui s'avère être une forte poussée, c'est quand même les Verts. Et les Verts qui peuvent changer complètement la donne. Et d'ailleurs, dans le remaniement gouvernemental éventuel au lendemain du deuxième tour, entre le 28 et le 14 juillet prochain, je pense que le président de la République peut craindre une alliance vert avec le PS futur, et il a intérêt à trouver une forte personnalité écologique pour occuper le ministère de l'Environnement.
Et de la garder, comme Nicolas Hulot.
C'est ça. Vous voulez dire que finalement, l'essai des Européennes se transforme, ce qui n'est pas toujours le cas.
On peut projeter déjà pour la présidentielle. La présidentielle, c'est terrible, parce que le président Macron est très affaibli, Marine Le Pen ne monte pas, et on n'a vu surgir personne.
Et oui, il n'y a pas d'alternative.
Voilà, alors les écolos, on verra ce que ça donne de toute façon le 28 juin, mais avant cela, on se retrouve les grandes voix, bien sûr, d'ailleurs dès demain. Alors, 18h30, vous serez là. Merci à vous, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou.